VOA Afrique, les infos. À Washington.
Au micro, Camille Grosdidier, bonsoir. Selon l'agence France-Presse, la Côte d'Ivoire va se doter d'une loi antiterroriste. Ce projet vise principalement à prémunir le pays contre la prolifération des groupes terroristes dans la sous-région, tels qu'Al-Qaïda au Maghreb islamique ou encore Boko Haram, a expliqué le gouvernement. Le projet de loi, adopté en Conseil des ministres, sera prochainement voté par l'Assemblée nationale. Au Niger, au moins 20 personnes sont mortes mardi après-midi, signale l'agence France-Presse. Elles ont été foudroyées par une bombe larguée par un avion non identifié. La bombe est tombée sur une cérémonie funéraire dans un village du sud-est du Niger, frontalier avec le Nigeria, selon des sources locales et humanitaires. Deux élus locaux joints par l'AFP ont fait état de 31 ou 32 morts et 20 blessés. Cette frontière est le lieu de tension en raison des attaques régulières des islamistes du groupe armé nigérian Boko Haram contre les positions des armées nigériennes et tchadiennes. Boko Haram a par ailleurs promis d'empêcher la tenue des prochaines élections au Nigeria. Il multiplie à cette fin les attaques meurtrières dans le nord-est du pays, signale l'agence France-Presse. Le point avec Idriss Fall.
Aboubacar Sekou, chef du groupe islamiste, dans une nouvelle vidéo, a juré de faire échouer les élections du 28 mars. Il a également revendiqué l'attaque de Gombe le 14 février où ses combattants avaient envahi la ville pour distribuer des tracts mettant en garde contre toute participation aux élections. Malgré tout, Attahiru Djega, chef de la commission électorale nigériane, a assuré devant le Parlement qu'un nouveau report des élections serait inconstitutionnel. Sur le terrain, l'armée nigérienne dit avoir tué plus de 300 djihadistes et repris la ville de Mangouno, mais ces affirmations ne sont pas confirmées par une source indépendante. Boko Haram s'était emparé le 25 janvier de cette ville dans l'état de Borno. Dans l'extrême nord du Cameroun, 8 civils ont été tués hier à Gaboua lors d'une attaque de djihadistes qui voulaient voler du bétail. Et au Niger, 2 élus locaux ont fait état d'au moins 30 morts lors du largage d'une bombe par un avion non identifié près de la mosquée d'Abadam. Ce village est divisé par un cours d'eau dont une partie se trouve au Niger et l'autre au Nigeria.
Au Burundi, le président Pierre Nkurunziza a procédé à des changements à la tête des services de renseignement. Timothée Donangmaï a recueilli les précisions de notre consoeur Karine Sihiroko de la radio publique africaine.
L'administrateur général du service des renseignements, c'était le général Godefroy Niyombare. Il n'est pas encore été remplacé parce que le nom de son remplaçant doit être approuvé par le Sénat. Le chef de cabinet du service des renseignements, lui par contre, a déjà été remplacé. C'est un Maurice Mbonima, qui est aussi un haut gradé de la police, qui remplace Léonard Ngendakumana. L'autre personne qui est remplacée, c'est le chef du renseignement intérieur, Sylvestre Ndaïzeye, qui était à ce poste. Il est remplacé par Bertin Garungu, qui était commissaire de la police de la région ouest.
Est-ce qu'on sait pourquoi ces changements interviennent maintenant?
On n'en sait pas beaucoup. Il y a beaucoup de théories qui s'échafaudent ici et là, mais on en saura peut-être également un peu plus demain. Tout ce qu'on sait, c'est que Godefroy Niyombare venait de passer là 3 mois au maximum. Donc ça surprend beaucoup de monde du fait que le président de la République le change aussi rapidement. On en fera peut-être beaucoup plus demain sur les motifs réels de ce changement aussi brusque.
Karine Sihiroko de la radio publique africaine, elle était jointe à Bujumbura. En Tunisie, 20 personnes sont accusées d'avoir participé à l'attaque contre l'ambassade des États-Unis en septembre 2012 et elles ont été condamnées à des peines allant de 2 à 4 ans de réclusion. Claire Morin-Gibourg.
Le verdict de la Cour d'appel de Tunis est bien plus lourd que celui prononcé en mai 2013 en première instance où les accusés avaient été condamnés à 2 ans de prison avec sursis. Selon le porte-parole de la Cour, Karim Chebi, les 20 prévenus ont cette fois été condamnés à des peines de prison fermes pour leur participation au saccage de l'ambassade et de l'école américaine en réaction à un film islamophobe diffusé sur Internet. À l'audience de mardi, seuls 6 des accusés étaient présents et tous ont nié avoir participé à la manifestation et aux heurts qui s'en étaient suivis avec la police et qui s'étaient soldés par la mort de 4 manifestants. Les autorités tunisiennes et les États-Unis avaient vivement critiqué les condamnations avec sursis des 20 accusés en première instance, si bien que le parquet avait fait appel. Il aura finalement fallu près de 2 ans pour que l'audience ait lieu mardi après de multiples reports.
La MONUSCO a pris acte mercredi à Kinshasa de la décision du président Kabila de se passer de son appui militaire dans les opérations de désarmement des FDLR dans l'est de la République démocratique du Congo. Mais selon Charles Bambara, le porte-parole de la MONUSCO, les discussions actuelles entre le gouvernement congolais et la hiérarchie de la mission onusienne en RDC permettront de faire évoluer positivement la situation. Et puis les combats continuent au Soudan du Sud. Pour une 3e journée consécutive, les forces gouvernementales et les rebelles s'affrontent dans le nord-est du pays, dans l'état pétrolifère du Haut-Nil, notamment près de Rink et de Melut. Le gouvernement, que cite l'agence France-Presse, évoque 6 soldats tués. Et c'est dans ce contexte de violence que doivent reprendre les pourparlers de paix jeudi à Addis Abeba.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au micro, Camille Grosdidier, un sommet se tient depuis hier ici à Washington, la capitale américaine. Il concerne la lutte contre l'extrémisme violent et la prévention. D'autres précisions avec Bagassi Koura.
C'est le vice-président Joe Biden qui a ouvert ce sommet de la Maison-Blanche. Il a vanté le succès des programmes de sensibilisation des jeunes à Boston, Los Angeles et Minneapolis, chacune ayant une large population d'immigrants.
Societies have to provide an affirmative alternative for...
Les sociétés doivent fournir une alternative positive pour les communautés d'immigrants. L'opportunité, un sens d'appartenance, et cela discrédite l'appel des terroristes à la peur. L'isolement, la haine, le ressentiment, la police doit établir des partenariats au sein des communautés religieuses, économiques et civiques. Mais nous avons aussi invité tous ces gens ici. Nous avons des chefs religieux ici. Nous avons la communauté des affaires, les dirigeants de la société civile. Le tout avec un but à l'esprit. Comment contrer l'appel à la radicalisation? Le sommet intervient alors que les États-Unis et leurs alliés sont confrontés à la montée rapide et sanglante du groupe extrémiste État islamique en Irak et en Syrie et les récents attentats terroristes en Australie, au Canada, en France et au Danemark. Des officiels de 60 pays ainsi que des chefs spirituels et des autorités policières américaines participent à ce sommet.
L'armée ukrainienne a abandonné ce mercredi la ville de Debaltseve après une puissante offensive des rebelles pro-russes sur cette ville stratégique pour le contrôle de l'est de l'Ukraine. L'annonce est venue du président ukrainien Petro Poroshenko. Jacques Aristide.
L'Union européenne a immédiatement condamné une claire violation du cessez-le-feu et dit se tenir prête à prendre toute action appropriée en cas de poursuite des combats en violation des accords de Minsk. Pour sa part, le secrétaire général de l'OTAN a sommé la Russie de retirer toutes ses troupes de l'Est de l'Ukraine et d'arrêter son soutien aux séparatistes. Un entretien téléphonique était prévu ce mercredi soir entre le président russe Vladimir Poutine, la chancelière allemande Angela Merkel et le chef de l'État français François Hollande. Ce mercredi encore, l'AFP rapporte que les corps de 13 soldats ukrainiens ont été acheminés dans une morgue près de Debaltseve. Mardi, le vice-président américain Joe Biden avait fermement condamné la violation du cessez-le-feu.
Et pour finir, la situation reste incertaine entre le nouveau gouvernement grec et ses créanciers européens. Athènes souhaite une extension de l'accord de sauvetage de 270 milliards de dollars sans les mesures d'austérité requises, tandis que le bloc euro exige, lui, l'application des réformes. Le plan actuel arrive à terme le 28 février et la Grèce se préparait aujourd'hui à demander un délai de 6 mois.
Soyez au cœur. cœur de l'info sur VOA Afrique.
Avec l'arrivée des rebelles que j'ai fui parce qu'ils ont sémé la terreur au sein de la population.
Ils ont commencé à tirer en l'air, ils ont dit Allahu Akbar. Après ça, ils ont dit que où est l'argent? Moi, j'ai dit que je n'ai pas d'argent.
Ils amènent le pays où? Et c'est le même système qui doit continuer.
Toute la famille est venue cueillir la fille pour la ramener et la donner de force en mariage.
On ne veut pas que la guerre recommence. Nous voulons que ça soit la fin et non le début.
Un mauvais jour se lève au Africa.
Même la salade est chère. On ne comprend rien. Le plus grand problème, c'est que les gens sont pauvres.
Mettons de l'ordre dans nos têtes afin de sauver la République, afin de sauver la nation, parce que plus rien ne sera absolument comme avant.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition hebdomadaire de Sahel Plus, dont qui a été ouverte par la version longue du générique exceptionnellement. Aujourd'hui au sommaire, manifestation contre Boko Haram au Niger.
On n'attaque pas le Niger impunément. Le Niger sera le tombeau de Boko Haram.
Nous entendrons un reportage à suivre dans l'émission. Les chefs d'État d'Afrique centrale tentent de mettre sur pied une stratégie contre Boko Haram. Naissance d'un nouveau parti politique au Burkina Faso en vue de la présidentielle. Enfin, nous ferons le point sur la dernière réunion de suivi des donateurs pour le développement du Mali. Voici les sujets que nous allons développer aujourd'hui dans Sahel Plus. Ouvrons donc l'émission avec le Niger. Des milliers de personnes ont manifesté hier dans le pays contre Boko Haram, dont les assauts ne semblent pas faiblir dans la région du lac Tchad, malgré la coalition régionale mise en place contre le groupe islamiste armé nigérian. Devant des milliers de manifestants à Niamey, Mahamadou Issoufou, le président du Niger, a déclaré que son pays serait le tombeau de Boko Haram. La correspondance à Niamey d'Abdoul Razak Idrissa.
Hymne national entonné en chœur par les milliers de manifestants réunis à la place de la Concertation. Lecture, puis remise d'un mémorandum des forces vives de la nation au chef suprême des armées, le président de la République Issoufou Mahamadou.
Monsieur le président de la République, on n'attaque pas le Niger impunément. Et Boko Haram l'a appris à ses dépens le 6 février dernier. Parce que ce jour-là, nos forces de défense et de sécurité ont écrasé Boko Haram. Nos forces de défense et de sécurité ont donc la volonté de se battre. Et le soutien que vous leur apportez aujourd'hui, que nous leur apportons aujourd'hui, renforcera leur morale, leur volonté de se battre. Inch'Allah, le Niger sera le tombeau de Boko Haram.
Les manifestants se disent plus que jamais déterminés à soutenir les forces de défense et de sécurité engagées dans cette lutte contre Boko Haram.
Nous sommes fiers de nos soldats et je voudrais dire quelque chose ici. Qui s'y frotte, s'y pique.
C'est celle qui consiste à se mettre tous ensemble pour lutter en bloc contre ce fléau, contre cette calamité que constitue Boko Haram. Boko Haram, on l'a dit, est haram. Donc nous devons au Niger démontrer à la face du monde que nous allons booster hors de nos frontières cette épidémie, Inch'Allah.
La manifestation a été organisée simultanément dans les autres villes du pays, à l'exception bien sûr de Diffa, qui a été la cible des attaques de la secte, ayant appelé leurs militants à boycotter la marche. Aucun leader de l'opposition n'a été aperçu ce matin dans la foule. Abdoul Razak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Nous avons gagné le pari.
Boko Haram, toujours en début de semaine, un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement a eu lieu à Yaoundé, au Cameroun. La communauté économique des États de l'Afrique centrale s'est engagée à contrer la menace posée par le groupe islamiste nigérian et une stratégie anti-Boko Haram a été adoptée. Le point avec notre correspondant à Yaoundé, Jules Elobo.
La rencontre tenue ce lundi à Yaoundé a permis aux États membres de la CEAC de prendre des engagements. 50 milliards de francs CFA, soit environ 100 millions de dollars, c'est la somme à mobiliser par les différents États membres pour faire face à la menace Boko Haram. La mise sur pied d'une force multinationale et la création d'un fonds de solidarité sont entre autres mesures prises pour combattre la secte islamiste. D'où l'importance de cette session extraordinaire. Hamad Alami, secrétaire général de la CEAC.
Cette session extraordinaire trouve ainsi toute sa pertinence en ce sens qu'elle vise effectivement à mettre en place la stratégie collective de la CEAC de lutte contre le groupe Boko Haram en cohérence et en synergie avec les autres initiatives internationales existantes poursuivant le même objectif.
La stratégie mise sur pied par la CEAC préconise aussi des actions concrètes assorties d'un échéancier bien déterminé et les mécanismes de mise en œuvre. Car pour l'Union africaine, la situation qui prévaut sur le terrain ne saurait perdurer. Jean-Marie Mokolo, représentant de l'Union africaine aux assises de Yaoundé.
Ces dernières semaines ont été marquées non seulement par la poursuite des attaques de Boko Haram au Nigeria, mais également par leur extension à d'autres pays de la région. Des milliers de civils ont été tués, des dizaines de milliers déplacés et des atrocités indicibles commises. Cette situation ne peut perdurer. L'action déjà engagée par les pays de la région nous conforte à l'Union africaine dans notre conviction que la victoire contre Boko Haram est à portée de main. L'Union africaine est pleinement solidaire des pays de la région. Il ne pourrait en être autrement car la paix et la sécurité de notre continent sont indissociables.
La synergie d'action est nécessaire non seulement au sein de la communauté de l'Afrique centrale, mais aussi avec l'Afrique de l'Ouest. Idriss Déby Idno, président du Tchad et président en exercice de la CEAC.
La guerre que nous impose Boko Haram aujourd'hui est une formidable opportunité de raffermir le lien de solidarité et d'intégration face aux menaces sécuritaires. Nous pouvons nous rendre à l'évidence qu'il est difficile pour nos États de faire face à ces menaces isolément. Je peux vous dire seulement que mon pays, le Tchad, est résolument inscrit dans cette logique panafricaniste. Notre intervention au Mali et dans d'autres théâtres d'opération en est l'illustration.
En décidant de renforcer la surveillance de leurs territoires respectifs, les chefs d'État et de gouvernement réunis à Yaoundé ont trouvé la nécessité de conjuguer leurs efforts pour bouter hors d'état de nuire la secte Boko Haram. Yaoundé, Jules Elobo, pour la Voix de l'Amérique.
Les ministres de la jeunesse du Commonwealth ont récemment terminé une rencontre au Cameroun pour voir comment empêcher les jeunes de rejoindre les organisations terroristes. Selon eux, l'une des principales causes est le chômage massif. Un reportage de Moki Edwin Kinzeka, correspondant pour le service anglophone de la Voix de l'Amérique, reportage relaté par Lionel Gaïma.
65% de la population africaine a moins de 35 ans. Chaque année, 10 à 15 millions de personnes entrent dans le marché du travail. Pour le secrétaire général adjoint du Commonwealth, Deodat Mahara, cette explosion démographique peut être potentiellement dangereuse pour un continent pauvre faisant face à des guerres, des maladies et au terrorisme. Les gens n'ont pas de travail, n'ont pas de moyens, n'ont pas d'éducation, n'ont pas de services. Là où ils vivent, ils pourraient faire autre chose. Ce que nous voulons, c'est fournir la meilleure perspective et l'analyse au gouvernement qui décide, sur une base nationale, quelle option est la meilleure. Un autre grand problème de l'Afrique, les jeunes qui constituent la majorité de la population ne sont pas écoutés ou associés à l'élaboration des politiques. Kajikuru Pauline, originaire de Namibie. Un des gros obstacles qui va supprimer les voix de la jeunesse africaine, c'est qu'il n'y a pas de consultation entre les jeunes et les vieux. Comment unir des gens différents, des gens de différentes cultures, des gens qui ont des perspectives différentes? Vous engagez, vous consultez. Il ne faut pas spéculer, il ne faut pas venir avec des choses qui, selon vous, seront bénéfiques à la jeunesse africaine. Les défis sont nombreux, notamment lorsque le système éducatif n'offre pas d'opportunités aux jeunes Africains pour développer leur potentiel. Jean-Marc Afessi Mbafor du Conseil national de la jeunesse camerounaise. Nous devons réformer le système d'éducation et fournir aux jeunes le savoir-faire nécessaire pour qu'ils n'attendent pas un travail, mais qu'ils puissent eux-mêmes se créer un boulot. Nous devons quitter ce système éducatif datant des indépendances lorsqu'il fallait former des administrateurs et des fonctionnaires éducatifs. Des jeunes. Afessi Mbafor qui ajoute que même avec des compétences, c'est un casse-tête chinois pour un jeune d'obtenir un prêt auprès des institutions financières. Toutes ces difficultés, en plus du chômage, peuvent alimenter le terrorisme et grossir des rangs de Boko Haram. David Moussonda, ministre zambien de la jeunesse et des sports. Cela ne justifie pas que des jeunes puissent mener des activités illégales. Les gouvernements sont inquiets. Le Commonwealth est inquiet. Le monde est inquiet de la jeunesse. Nous avons une population jeunes relativement importantes à travers l'Afrique et ils sont très productifs. Ils ont de l'énergie et aller rejoindre des groupes terroristes ne peut être une solution au chômage. Alors, quelle solution à cette bombe à retardement que représente le chômage sur le continent? Les ministres promettent de travailler avec le secteur privé et le gouvernement pour créer des emplois. Ils vont aussi encourager des multinationales à investir en Afrique. Ils ont réitéré leur appel aux pays africains à investir dans l'agriculture. Ce secteur employait 70% de jeunes africains avant 1985. Maintenant, cultiver la terre n'est plus attrayant pour les jeunes africains.
Burkina Faso, le colonel Yacouba Ouédraogo, surnommé Yak, l'ancien ministre des Sports de Blaise Compaoré, il a décidé de se lancer dans la course à la présidentielle. Il vient de créer un nouveau parti politique, l'UBN, l'Union pour un Burkina Nouveau. Nous vous proposons un reportage sur ce nouveau mouvement tenu par un autre militaire qui tente d'arriver à la magistrature suprême au Faso. Tout cela grâce à notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Ouanogo.
L'Union pour un Burkina Nouveau, UBN, c'est la mutation en parti politique de l'association Burkina Nouveau. Son président, le colonel Yacouba Ouédraogo, dit Yak, explique ici le sens de ce glissement de perspective.
Il faut dire que depuis 2011, nous avons constaté, après la mutinerie des militaires, qu'il fallait vraiment que les Burkinabés aient un nouveau comportement. Et c'est pour cela que nous avons mis en place le Burkina Nouveau. Nous avons traversé les villes et les campagnes, nous sommes allés même au-delà de notre pays pour faire en sorte que les Burkinabés se retrouvent dans la paix, dans la cohésion. Et aujourd'hui, avec l'insurrection, nous nous sommes dit qu'il fallait maintenant aller au-delà de sensibilisation. Et c'est pour ça que nous avons mis en place ce parti, pour poser maintenant concrètement des actes, pour faire en sorte que notre Burkina Faso connaisse la paix, la réconciliation nationale et surtout la cohésion sociale.
Ce nouveau-né de la scène politique burkinabé est aussi le résultat de la fusion avec la CFDB, Convention des forces démocratiques du Burkina. Voici ce qu'en dit Amadou Djemdjoda Diko, ancien président de la CFDB.
Il y a la fusion, il y a l'alliance. Mais nous avons dit, quand vous êtes alliance, ça veut dire que vous êtes dans une chose, un pied dedans, un pied derrière. Nous avons créé un parti depuis 1998. À partir de 2002, nous sommes partis à des alliances. Cette alliance ne dure pas parce que des gens viennent à vous pour une élection, ils disparaissent, ils vous laissent après tout seul. Et quand on fait le décompte chaque fois, c'est notre parti qui avançait, mais l'alliance elle-même ne progressait pas. Donc on a dit, comme on a l'expérience de l'alliance, nous allons maintenant tenter une seconde expérience, qui est celle de la fusion. Et c'est pourquoi donc nous sommes partis donc en fusion avec d'autres forces pour pouvoir donc engranger beaucoup plus de victoires.
La prochaine présidentielle au Faso portera une griffe particulière, celle des militaires candidats. En plus du colonel Yacouba Ouédraogo, on annonce les candidatures du général Djibril Bassolé, du colonel Jean-Baptiste Natama et même du général Gilbert Diendéré. Est-ce un cadeau quand on sait qu'en 55 ans d'indépendance, le Burkina Faso n'a connu qu'un seul président civil? Écoutons la réponse de Jacob Barry, Il est le secrétaire général de l'IBN.
Nous sommes habitués à voir des militaires qui arrivent au pouvoir par des putschs en Afrique et même dans notre pays. Alors cela a terni un tant soit peu l'image des militaires par rapport au pouvoir que l'on souhaiterait désormais civil. Mais nous pensons que les militaires aussi sont des citoyens de chaque pays. Et dans le cas du colonel Yacouba Ouédraogo, c'est un monsieur qui a ambition de donner une leçon à son pays, à l'Afrique et au reste du monde, en faisant comprendre qu'on peut être militaire, devenir civil, aller à la conquête du pouvoir d'État sans passer par les armes.
Zoubana Ounougou, Ouagadougou, VOA Afrique.
Ouagadougou, vous nous écoutez sur le 102.4 FM. Délestage et coupe de courant sont les mots les mieux partagés dans beaucoup de pays africains. Qu'ils soient riches ou pauvres, alors j'ai un petit problème technique. Nous allons écouter à la place un reportage de Kassim Traoré sur la dernière réunion de suivi des donateurs pour le Mali.
En mai 2013, la communauté internationale s'était engagée à aider le Mali. Plus de 3,3 milliards d'euros avaient été promis. Annick Girardin, secrétaire d'État français chargée du développement et de la francophonie.
La France, pour sa part, avait promis à Bruxelles un appui sur 2 ans. Elle a tenu ses engagements et elle a même dépassé. Fin 2014, c'est un total de 310 millions d'euros que la France aura engagé en faveur du Mali.
Les pourparlers d'Alger ont été abordés au cours de cette rencontre. Amadou Konaté, ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord.
Si voudrais-je réitérer ici l'engagement du gouvernement du Mali à poursuivre ces négociations dans un esprit constructif, inclusif, afin d'aboutir le plus rapidement possible à la signature d'un accord de paix.
Le premier ministre malien a salué la solidarité de la communauté internationale, Modibo Keïta.
Le gouvernement du Mali, malgré toutes les difficultés, n'a jamais perdu de vue la nécessité de mériter la confiance de ses partenaires et de s'engager à mettre en œuvre tous les engagements auxquels il a souscrit. Je le réitère ici, nous ferons tout pour mériter de votre confiance.
Cette 5e réunion de suivi est la dernière. Elle doit permettre aux pays donateurs qui ont promis de faire le point de leurs différents décaissements en faveur du Mali. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute de Sahel Plus sur VOA Afrique, 102 FM, notre fréquence à Bamako. Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. Nous rediffuserons cette émission vendredi prochain à 18h, temps universel. À la réalisation, Georges Leonardo Sagno. À la technique, Pete Henley. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Rendez-vous mercredi prochain, 18h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter. VOA Sahel Plus. Nous nous quittons en musique avec Tfel Belmi, un morceau tiré du nouvel album du même nom du jeune rappeur mauritanien Hamzo Brin. Rappelez-vous, It Start From Nouakchott, un des premiers singles d'Hamzo, avait fait grand bruit et créé la polémique. Dans le clip apparaissait une jeune femme voilée, puis en maillot de bain sur la plage. Le clip a atteint plus de 230 000 vues sur YouTube. Bonne soirée. Et bonne nuit à tous.
I don't know if they know. Crois-moi, je m'en fous des critiques. Me, nigga, don't worry. De tout ce que tu peux penser. Mais un nini. N'haqq al-halm al-hib qu'on a yichou. We ain't gonna trouble if you keep saying no. Say no. Ila hawl farsin. Ya nant ba'atrikak. Layna wa ta'liq. Fahuwa al-khutwa. Jor al-hurriya. Ana mani kiba. أنا مالكي باك نشوف العالم ويشوفني ونتكلم لوقته ويفهمني أنا فلب حلمي still working for a way I know that I'll make it crois-moi je m'en fous des critiques أنا فلب حلمي still working
l'esprit s'exorcise. J'ai le gosse, sa voix qui nous séduise. J'ai fait le tour de ce petit monde où l'on traite de vous tous ceux qui sur les ondes passent leur temps à créer et à casser des codes avec l'arsenal d'un...